Info matin, Nicolas Legrand.
Le budget de la Nouvelle-Calédonie adopté à l'unanimité. Seul le groupe UCFLNKS et nationaliste s'est abstenu. Il s'élève à 155 milliards de francs pour le budget propre. En métropole, le parquet demande la détention provisoire de 7 suspects. Le procureur de la République de Lyon fait le point sur l'enquête après la mort du jeune Quentin tabassé à mort. Actualité internationale et l'ex-prince Andrew arrêté. Le frère du roi Charles III a été placé en garde à vue pour ses liens avec Jeffrey Epstein. Il est soupçonné de lui avoir transmis des documents confidentiels. Le sport avec deux nouvelles médailles pour la délégation tricolore aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Médaille décrochée dans une toute nouvelle discipline, le ski alpinisme. Émilie Harop en argent et Thibaut Anselmet en bronze. La météo en Nouvelle-Calédonie, le mauvais temps persiste sur l'extrême sud. L'île des Pins est marée avec des averses parfois fortes et orageuses. Sur la côte ouest, le soleil reste bien présent. Quant au vent, il souffle jusqu'à 40 nœuds en rafale par endroit. Les températures maximales, elles, évoluent peu en par rapport à la veille. Elles s'échelonnent de 29 à 32 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
À la une, l'actualité institutionnelle sur le territoire.
Un budget de responsabilité et de relance. Les élus du Congrès étaient réunis boulevard Vauban hier pour examiner le budget de la Nouvelle-Calédonie 2026 et ses deux budgets annexes. Des budgets adoptés à la majorité par l'ensemble des groupes politiques, à l'exception du groupe UCFLNKS et nationaliste qui s'est abstenu, Léo Fichou.
Oui, un budget propre 2026 de la Nouvelle-Calédonie qui s'élève donc à 155 milliards de francs. Il s'agit du dernier budget voté par cette mandature qui s'inscrit dans un contexte particulier de crise sanitaire, économique et sociale. Pour Sonia Baquès de l'intergroupe Les Loyalistes au Congrès, l'adoption de ce budget tient en grande partie au cadre qui a été construit par le gouvernement et son membre en charge du secteur, Christopher Gigès, établissant une méthode collective.
Concrètement, il nous a vus à toutes les étapes de la construction de ce budget. Il nous a à la fois associés à la pression qui a été mise à l'État parce qu'on vit depuis deux ans des difficultés dans les négociations avec l'État. Donc, nous a associés à tous les moments, à toutes les décisions, à tous les courriers qui ont été faits à l'État. Et donc, les décisions ont toutes été prises conjointement entre tous les groupes politiques du Congrès. Ce qui a permis finalement que tout le monde s'y retrouve, que tout le monde se mette d'accord pour savoir concrètement ce qui manquait et ce qu'il fallait demander à l'État. Et ce qui a permis, quand on était à Paris, d'être tous en phase sur la manière de mener les négociations avec l'État.
Par rapport à l'exercice 2025, on note une baisse des recettes fiscales de 2,2%, soit 825 millions de francs. Les dépenses de reversement, elles, s'élèvent à 68 milliards, soit encore une diminution comparée à l'an passé. Près de 42 milliards seront attribués à la SSNC pour le financement des comptes sociaux en 2026. Concernant la TGC en 2026, malgré une hausse de 7% de la taxe générale sur la consommation, l'affectation au budget de reversement en faveur des principaux établissements recule de 7%. L'ADANC, l'Agence pour la desserte aérienne du territoire, voit son budget diminuer de 13% en un an. Un sujet qui soulève des questions de la part des élus dans un contexte de déménagement de la compagnie Air Calédonie de Magenta vers Tontouta, et ce, pour réduire un déficit financier. Itoupan Thiéwé, vice-président du groupe UNI au Congrès.
C'est un sujet qui fait débat et le membre du gouvernement a bien indiqué qu'il y a des réunions qui vont se tenir encore la semaine prochaine, justement avec les exécutifs des provinces pour pouvoir discuter du sujet.
Dans un même temps, les ressources du GIE Tourisme sont en augmentation pour favoriser l'attractivité du territoire à l'international. Le budget consacré à cette promotion touristique est porté à 400 millions de francs contre 260 millions auparavant. Une dépense budgétaire que défend le membre du gouvernement, Christopher Gigès.
On avait plusieurs volets qui devaient augmenter dans ce budget, notamment la partie relance économique, à la fois sur l'investissement public, la formation professionnelle, mais aussi l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie, où personne n'est sans savoir ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie. Et on a besoin de redorer notre image à l'international. Et donc, on aura une vraie volonté de promotion de la Nouvelle-Calédonie en 2026. Et pour ça, il faut du budget. C'est encore inférieur à nos principaux concurrents. Mais on est sur la bonne voie et c'est ce qu'il faut pour recréer l'emploi et recréer la richesse.
Le groupe UCFLNKS et nationaliste est donc le seul à s'être abstenu pour ce vote du budget 2026. Omera Neslin, vice-présidente du groupe.
Notre groupe est abstenu sur ce budget 2026, mais on a salué la méthode, notamment du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et du membre en charge. Le plus dur reste à faire, les réformes attendues et un contrat de désendettement qui doit être réalisé et adapté. On a proposé des réformes via des vœux, des propositions de résolution. On l'a annoncé aussi, la proposition aussi de transformation du prêt en subvention. Donc il y a des premiers signaux positifs et aujourd'hui, le plus dur reste à faire. Les propositions seront attendues par les différents groupes, notamment sur des séquences de travail avec la Nouvelle-Calédonie, avec la mission aussi interministérielle, et donc le groupe fera ses propositions dans ce sens.
Si plusieurs réserves avaient été émises par les élus en début d'année concernant ce budget décrit comme insincère par certains, les dernières discussions à Paris et des fonds supplémentaires accordés par l'État ont rendu possible un équilibre tant sur le budget de répartition que sur les comptes sociaux. L'accord Élysée-Oudinot a également été un point clé concernant le contrat de désendettement qui ouvre la voie à une transformation progressive des prêts en subventions. Mais il y a encore du travail à engager, assure le chef de file de l'intergroupe Éveil Océanien Calédonie Ensemble, Philippe Dunoyer.
C'est un budget qui sauve l'essentiel. C'est un budget qui préserve pour 2026 le financement des retraites du privé, qui permet le fonctionnement et le financement du REAM et qui stabilise aussi les besoins du système électrique. Parce que nous avons obtenu à Paris un financement supplémentaire ou complémentaire de 15 milliards qui permet aujourd'hui d'assurer ces trois urgences. Il y a énormément de sujets qui demeurent. Donc ce budget préserve l'essentiel. Il était invotable sans ces financements complémentaires. On a voté donc pour. Il faut quand même s'atteler maintenant au travail, que ce soit dans le cadre des réformes à entreprendre, que ce soit dans le cadre des décisions à prendre, pour là aussi, sur le secteur santé et enseignement, assurer l'essentiel.
Le budget annexe de répartition dont les crédits assurent le financement des provinces et des communes s'élève à 113,5 milliards pour l'année 2026, ce qui est une augmentation par rapport à l'année dernière. Enfin, le budget de reversement qui abonde les établissements publics au travers de la collecte de certaines taxes s'élève à près de 70 milliards de francs.
Et nous reviendrons ce matin sur le vote du budget par les élus du Congrès. Notre invité à 7h30 sera en effet le membre du gouvernement en charge notamment du budget, Christopher Gigès. Alors on l'a vu, l'intervention de l'État a été déterminante. 1 300 000 francs par habitant en Nouvelle-Calédonie. C'est la somme dépensée par l'État en 2024. Une somme conséquente, nous a dit Claire Durieux, qui dirige la mission interministérielle sur la Nouvelle-Calédonie. Elle arrive au terme de son 6e séjour sur le territoire et elle était hier midi l'invitée des Jeudis de l'économie, Léo.
En décembre dernier, le Premier ministre a dévoilé son pacte de refondation économique et sociale pour la Nouvelle-Calédonie, précisé depuis dans l'accord Élysée-Oudinot. Il fixe en quelque sorte la feuille de route de la mission en indiquant les engagements de l'État. Mais la France n'a pas attendu ce pacte pour intervenir en Calédonie afin qu'elle évite l'effondrement économique causé par les émeutes. Dès 2024, l'État a engagé des sommes importantes, a rappelé Claire Durieux.
L'État, en temps normal, en Nouvelle-Calédonie, ses flux financiers, donc hors crise, si je prends l'année 2023, les flux financiers de l'État, c'est environ 200 milliards de francs CFP en Nouvelle-Calédonie, ce qui est déjà significatif.
Chaque année.
En temps normal. En 2024, pour faire face aux urgences liées à la crise générée par les émeutes, on est passé autour de 350 milliards de francs CFP de financement, de flux financiers de la République, de l'État, en Nouvelle-Calédonie. C'est 1,3 million de francs par habitant. C'est énorme.
En 2025, l'État aura dépensé la même somme pour soutenir l'économie calédonienne, même s'il reste encore des situations d'urgence sur le plan social, concède Claire Durieux. Elle estime que ces sommes importantes ont permis de répondre à des besoins urgents. Il n'y a pas de conditions imposées par l'État pour percevoir cet argent, pas de contrepartie demandée. L'État ne tord pas le bras à la Calédonie, a insisté la directrice de la mission interministérielle sur la Nouvelle-Calédonie, qui a expliqué les engagements de chacun.
L'idée, c'est plutôt de dire qu'il faut des engagements réciproques. L'objectif qui est partagé par tous les élus, c'est que, in fine, la Nouvelle-Calédonie retrouve sa stabilité économique, retrouve les moyens de mener ses politiques publiques. Et donc, pour ça, elle a besoin de réformes. Et tous les élus sont d'accord pour dire qu'il y a besoin de réformes. Donc, on n'est pas du tout dans une logique où il faut tordre le bras. On est collectivement dans une logique où on est d'accord sur le fait qu'il faut des réformes au modèle. Et nous, la mission, on est là en accompagnement, en appui, pour aider à faire les chiffrages, les évaluations. Et ensuite, ces engagements réciproques vont se traduire par un contrat pluriannuel où l'État indiquera ce qu'il met sur plusieurs années et la Nouvelle-Calédonie indiquera la trajectoire de réforme qu'elle apporte en engagement de sa part sur les prochaines années.
La mission interministérielle sur la Nouvelle-Calédonie a donc permis de répondre à l'urgence et travaille maintenant sur le plus long terme en s'attaquant à un secteur essentiel, le nickel. Elle devra définir une stratégie pour la filière qu'elle doit préserver et présenter au Premier ministre à la fin du premier semestre 2026. L'objectif est de se doter d'outils qui doivent permettre à la filière et notamment aux usines d'être rentables.
Et dans ce contexte, il faut aller de l'avant. Naïma Moutchou appelle les parlementaires à la responsabilité. La ministre des Outre-mer qui était l'invitée cette nuit pour nous, de l'Association des journalistes parlementaires. Et elle est revenue sur le processus en cours en Nouvelle-Calédonie et notamment sur l'incertitude qui plane autour de la mise en œuvre de l'accord de Bougival. Naïma Moutchou estime que cette phase est habituelle dans le dossier calédonien.
La situation n'est pas simple. Le processus parlementaire qui s'engage n'est pas simple. Mais il ne l'a jamais été. Pour aucun accord qui a construit l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, ce sont des accords fragiles qui ont permis au territoire d'avancer. Matignon, Oudinho, Nouméa ont été des accords très contestés, qui n'emportaient pas l'unanimité des partenaires. Et il y a eu dans le temps des séquences d'aller-retour, des phases de doute, des phases de tension. Nous y sommes. De la même manière que ça a pu exister avant, nous y sommes. Mais notre responsabilité commune, collective, c'est d'avancer. Le pire scénario pour la Nouvelle-Calédonie, c'est de ne rien faire. Parce que la situation, nous le savons bien, elle est particulièrement dégradée. Sur le plan économique, le territoire a perdu 13 points de PIB. 13 points. Il est entré dans une phase de récession. On ne peut pas ne rien proposer au territoire. C'est le sens de l'accord de Bougival, complété par l'accord Élysée-Oudinot, qui donne de la perspective politique et institutionnelle. C'est le sens du protocole financier qui est adjoint, qui est un protocole qui donne un effort de l'État. Plus d'un milliard d'euros, 1,1 milliard, rien que pour l'année 2026. C'est colossal.
Puis la ministre des Outre-mer appelle les parlementaires, mais aussi le FLNKS, à la responsabilité.
Et les socialistes, dans leur tribune, ont dit une chose très juste. Ils ont dit, Bougival, c'est utile. Bougival, ça ouvre un chemin. Mais Bougival, il faut le sécuriser. Je suis d'accord. Et il y a encore matière à sécuriser, puisque nous sommes dans un processus qui s'égrène dans le temps, qui va jusqu'à la fin de l'année. Il y a la place pour faire des choses. Il y aura l'étape au Sénat. Je l'ai dit, moi, je serai attentive aux amendements de précision qui viendront sécuriser des dispositifs, qui viendront répondre à des doutes s'il y en a. Dans les esprit des accords. Et j'ai dit une deuxième chose, c'est que ma porte, elle reste ouverte. Parce que personne n'est exclu du processus. Moi, je n'exclus personne. Certains se sont auto-exclus de la séquence. Moi, je n'exclus personne. J'ai dit qu'il n'y avait pas de sujet tabou. J'ai dit qu'on pouvait parler. Autodétermination, identité kanak, pacte de refondation économique et sociale. Tout. T'es là. Qu'est-ce qui bloque? Je le demande, je pose la question. L'État est prêt à avancer. Moi, je suis garante d'une méthode et d'un cadre. J'ai 5 forces politiques sur 6 qui veulent construire. Il en manque une. Je l'appelle à la responsabilité pour les Calédoniens.
La ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, qui était l'invitée de l'Association des journalistes parlementaires, estime que s'il faut regarder le passé et notamment les émeutes, c'est forcément pour aller de l'avant.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Avant de refermer cette page, la réponse à notre question d'hier. 62% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS considèrent que l'avant-projet de loi du pays qui vise à permettre l'exportation de minerais à basse teneur, extrait des sites de Thiébaguy, de Cognambeau et du sud de l'Atérique, est une remise en cause de la doctrine nickel. Ils sont 38% à penser que ce n'est pas le cas. Voici maintenant notre question du jour. Comprenez-vous que les usagers d'Aircal des îles manifestent leur mécontentement sur le déménagement des activités de la compagnie vers Tontouta? Si vous le comprenez, vous tapez 1. Si vous ne le comprenez pas, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Les collectifs d'usagers d'Aircal qui vont d'ailleurs manifester ce matin, ils protestent contre le déménagement des activités de Magenta à Tontouta. La manifestation se déroulera Vallée du Tir pour se terminer devant le siège d'Aircal. Les collectifs et les coutumiers qui annonçaient le blocage des aérodromes des îles aujourd'hui et demain. Et enfin, rendez-vous sur notre antenne. C'est Jean-Pierre Jaiwe, chef du groupe Uni au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et signataire de l'accord de Bougival et de l'accord complémentaire Élysée-Oudinot, qui sera ce midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Jean-Pierre Jaiwe sera interrogé sur ces accords, sur leur mise en œuvre et sur le processus parlementaire, mais aussi sur la préparation des élections municipales. Un magazine Transparence à suivre à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. En attendant, il est 6h passé de 45 minutes. Merci d'être avec nous. On va marquer une première pause publicitaire dans ce journal avant de voir l'essentiel de l'actualité en métropole.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Faramédée, si loin, mais si près, décompressé avec le Maridé, réservez votre place sur amedeeisland.com.
Parce que chaque instant compte, AXA protège ce qui est précieux. Votre famille, votre santé, vos biens et votre épargne. AXA, plus qu'une assurance, un partenaire de confiance au quotidien.
L'Armorique Amicale des Bretons organise un fest-noz le samedi 21 février à l'hippodrome de Nouméa à partir de 18h. L'entrée est à 1500 francs sur place ou disponible sur ticket.nc. Restauration bretonne sur place, venez nombreux.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
La suite du journal avec l'actualité en métropole et le parquet demande le placement en détention provisoire de 7 suspects. Le procureur de la République de Lyon a tenu une nouvelle conférence de presse cette nuit pour donner des précisions sur l'enquête après le tabassage à mort de Quentin Derenque. Jean-Luc Boujon pour Europe 1.
7 hommes de 20 à 26 ans qui sont en ce moment même présentés à un juge en vue de leur probable mise en examen pour homicide volontaire. Le parquet a effectivement également requis leur placement en détention provisoire. En garde à vue, ces 7 hommes n'ont pas adopté la même attitude, a expliqué tout à l'heure le procureur de Lyon, Thierry Dran.
Lors des interrogatoires des 7 personnes placées en garde à vue pour homicide volontaire, 2 d'entre elles refusaient de s'expliquer sur les faits notamment. Les autres connaissaient leur présence sur les lieux et certains admettaient avoir porté des coups à Quentin Derenque ou et à d'autres victimes. En revanche, ils contestaient tous une intention homicide.
Alors les 4 autres personnes qui avaient été placées en garde à vue pour recel de malfaiteurs seront convoquées ultérieurement par la justice. En ce qui concerne ces 7 hommes actuellement présentés à un juge, ils sont étudiants, employés. L'un est sans emploi, le dernier, Jacques-Élie Favreau, est assistant parlementaire du député insoumis Raphaël Arnaud. 2 ont des antécédents judiciaires, vol et port d'armes. Et on saura donc tout à l'heure si ces 7 hommes dormiront ce soir en prison.
Et des proches de Quentin, par ailleurs, ont l'intention d'organiser une marche en mémoire du jeune homme à Lyon. Le maire écologiste Grégory Doucet en demande l'interdiction auprès du préfet. Il explique que cette marche va attirer des militants d'extrême droite de toute la France et même de l'étranger et que ceux-ci sont susceptibles d'actes violents. Emmanuel Macron, lui, sort en quelque sorte du silence. Le président de la République est en Inde où il est parti vendre de l'armement. Le chef de l'État, qui avait fait un post sur X ces derniers jours sur le meurtre de Quentin, mais il ne s'était pas encore exprimé de vive voix. Le président appelle au calme, mais surtout s'en prendre à la première ministre italienne, Giorgia Meloni, qui a déclaré que la mort de Quentin est une blessure pour l'Europe entière, Jacques Serret.
Oui, Emmanuel Macron renvoie dos à dos extrême gauche et extrême droite.
Les partis extrêmes doivent faire leur ménage. L'extrême gauche en l'occurrence, mais les autres partis extrêmes et l'extrême droite aussi, qui a dans ses rangs parfois des militants qui justifient l'action violente.
Manière pour le président de prendre de la hauteur et d'appeler au calme depuis New Delhi.
Je les appelle tous à la responsabilité, à lever ces ambiguïtés. Je les appelle tous à ramener les esprits à la fois à la décence et au calme.
Le chef de l'État qui, au passage, s'en prend à Giorgia Meloni, la première ministre italienne, avait qualifié l'assassinat de Quentin Derenque d'événement profondément choquant et attristant, de blessure pour toute l'Europe.
Je suis toujours frappé de voir que les gens qui sont nationalistes, qui ne veulent pas qu'on les embête chez eux, sont toujours les premiers à commenter ce qui se passe chez les autres. Que chacun reste chez soi et les moutons seront bien gardés. Ça,
vous avez bien compris, ajoute Emmanuel Macron, qui ne précise pas toutefois qui sont les moutons.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Le choc en Angleterre après l'arrestation de l'ex-prince Andrew, le fils chouchou de la reine Elisabeth. Il a été interpellé dans le cadre des dossiers Epstein. Il est actuellement auditionné par la police et des perquisitions ont eu lieu dans ses 2 domiciles. Il est soupçonné d'avoir partagé des documents confidentiels avec Jeffrey Epstein alors qu'il était envoyé au commerce international entre 2001 et 2011. La justice britannique le soupçonne de fautes graves dans l'exercice de ses fonctions officielles à Londres. L'arrestation d'un membre de la famille royale, même déchu de ses titres, est quelque chose d'inédit. Le reportage de la correspondante d'Europe 1 en Grande-Bretagne, Sarah Menaille.
Pour retrouver la trace de la dernière arrestation d'un membre de la famille royale britannique, il faut remonter à celle du roi Charles Ier en janvier 1649. Alors plus de 3 siècles et demi plus tard, la nouvelle de l'arrestation de l'ex-prince Andrew a provoqué ici aujourd'hui un tremblement de terre.
J'ai vu ça à la télé ce matin, je n'y croyais pas. Oh mon Dieu, mais tant mieux. Il doit prendre ses responsabilités. S'il n'a rien fait, pas de problème. Mais sinon, on attend et on verra.
Son arrestation est une bonne chose. Je ne vois pas pourquoi il aurait un traitement préférentiel.
Il n'a que ce qu'il mérite. Il pensait pouvoir s'en sortir grâce à qui il était, grâce à son statut, mais ça s'est retourné contre lui.
Au Royaume-Uni, l'enquête de la justice britannique se poursuit. Dans le viseur de l'opinion publique et sous le flot d'accusations, Andrew Mountbatten-Windsor, lui, continue de nier. Londres, Sarah Menei, Europe 1.
Toujours dans l'actualité à l'étranger, Donald Trump se laisse 10 jours pour décider d'intervenir ou non en Iran. 10 jours pour évaluer la possibilité d'un accord entre Washington et Téhéran. Si les négociations entamées au début du mois n'aboutissent à rien, de mauvaises choses arriveront, prévient le président américain. Il est 6h50, vous écoutez Radio Rythme Bleu. Après la pause, la suite de l'actualité sur le territoire.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Faites du sport avec la ville de Nouméa.
Rendez-vous ce samedi 21 février de 9h à 15h au stade Pentecôte et à la salle Omnisport de Lensvata pour découvrir les pratiques sportives proposées à Nouméa.
Arts martiaux, sport collectif, individuel ou aquatique.
Profitez de la présence des associations, ligues et comités sportifs pour vous informer, vous initier et pourquoi pas vous inscrire.
Et surtout, n'oubliez pas votre tenue de sport.
Programme complet sur nouméa.nc et sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
Envie de voyager ? Le financement, c'est Socalfi. Un mariage en vue ? La sérénité, c'est encore Socalfi. Des travaux à lancer ? La solution, c'est toujours Socalfi. Parce que chaque projet est important, Socalfi finance toutes vos envies. Contactez-nous dès aujourd'hui au 448 448 ou sur notre site socalfi.com. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
L'hôtel du Centre 3 étoiles Business vous accueille pour vos réunions stratégiques, vos déjeuners d'affaires à la pergola et vos séjours professionnels. Un lieu pensé pour la performance, le confort et la discrétion. L'hôtel du Centre, plus qu'un hôtel, votre partenaire business. Hôteldu-centre.nc 237 100.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Info matin, la suite de l'actualité sur le territoire, on retrouve Nicolas Legrand.
Avec la préparation des élections municipales et cette nouvelle liste à Nouméa, elle s'intitule Unité Pays et elle est conduite par l'essai Adjouniop, une liste qui est estampillée FLNKS et plusieurs composantes du front y sont représentées. Sa composition n'a pas été rendue publique, mais elle sera conduite donc par l'essai Adjouniop, qui est un artiste, un musicien qui revendique son ancrage dans les quartiers populaires. Il a défini la philosophie de sa liste.
Unité Pays aussi, c'est amener ce message d'artisan de décoloniser le mental, artisan de la décolonisation mentale. Mis à part les mesures financières qui sont décrétées à la mairie pour mettre en place des choses, mais tout d'abord, en chacun de nous, décoloniser. Donc par rapport à ce qu'on veut, il faut d'abord déconstruire ce système colonial, on va dire, de chez nous. La politique, elle ne doit pas venir que d'en haut. La politique, elle va d'en bas en haut et vice-versa, les mesures qui reviennent. Donc voilà un peu la philosophie d'Unité Pays.
La liste Unité Pays qui affiche son opposition à l'accord de Bougival et elle veut être la voix des quartiers populaires. Son programme est surtout orienté vers le quotidien des habitants des quartiers nord. Il porte sur les cantines, le transport, la santé mentale ou encore l'accompagnement de la jeunesse. En 2020, lors des dernières élections municipales, la liste FLNKS avait obtenu 2 élus à Nouméa et elle espère bien sûr augmenter sa représentation, même s'il y aura au moins une autre liste indépendantiste à Nouméa, celle de Monéico Aouchas du MNIS. Nouméa, où pour l'instant 4 autres listes ont fait acte de candidature, celle de Sonia Lagarde, de Virginie Ruffnac, de Philippe Dunoyer et de Véronique Forestier. Toujours à Nouméa, la baignade est temporairement interdite à Lensvata et à la baie des Citrons en cause la qualité des eaux et la présence élevée d'Escherichia coli et d'entérocoques intestinaux détectés dans les analyses avant-hier. Il s'agit de bactéries que l'on retrouve dans les sels. Leur concentration pourrait être due aux récentes pluies et donc l'évacuation des eaux usées. De nouveaux tests ont été réalisés hier. Les précisions de Laurent Vignon, il est directeur des risques sanitaires de la ville de Nouméa.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, quand il pleut beaucoup, il y a un arrêté automatique qui déconseille la baignade. On a un lessivage de tous les sols, et donc toute cette eau qui ruisselle dans la rue, sur les trottoirs, un peu partout, et dans les canaux, bien entendu, d'évacuation des eaux pluviales, se déverse dans la mer. Et donc, ça entraîne de remonter un mélange de l'eau qui peut être de plus en plus sale. Et bien entendu, ça déverse un certain nombre de saletés et de germes qu'on ne souhaite pas avoir dans l'eau de baignade. Donc, en fait, c'est cela qu'on mesure de façon à prévenir de tout danger. Alors, quand on interdit la plage, ça ne veut pas dire que c'est dangereux, hein. Donc voilà, c'est un signal d'alerte qui nous dit, attention, là, l'eau n'est plus conforme au seuil. Mais le seuil, il est très inférieur. Bien entendu, à un risque réel. Sachant que la météo est un peu plus favorable, que la pluviométrie a diminué, qu'il y a moins de débordements de tous les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales, on peut espérer que les résultats seront meilleurs. Et dès que les résultats sont meilleurs, bien entendu, on rouvre la plage et la baignade.
Et en attendant donc le résultat de nouvelles analyses, la baignade est donc interdite à Lensvata et à la baie des Citrons. Elle est déconseillée à la promenade Pierre Vernier, Magenta, au coin du Beach et à la Pointe Magnien. Il est 6h55, vous écoutez Radio Rythme Bleu, merci d'être avec nous. On va marquer une pause publicitaire dans ce journal, la dernière, avant de voir toute l'actualité sportive et notamment ces deux nouvelles médailles pour l'équipe de France lors des Jeux Olympiques d'hiver.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Groupama. C'est la rentrée chez Groupama Pacifique. Découvrez notre assurance scolaire pour protéger votre enfant en tout lieu, toute l'année, même hors du cadre scolaire. Offrez-leur le meilleur pour la rentrée. Rendez-vous dans votre agence Groupama Pacifique la plus proche pour une souscription simple et rapide. Plus d'infos sur www.groupama-gan.nc. Voir conditions en agence.
Groupama.
Vous rêvez d'une salle de bain moderne? DCSM vous accueille dans son showroom dédié à l'univers de la salle de bain. Robinetterie, receveur, baignoire, pare-douche, WC, meubles de salle de bain.
Venez aménager votre future salle de bain, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Nous y sommes. La démocratie participative prend vie au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Une plateforme citoyenne est ouverte pour vous permettre de choisir le sujet qui sera confié à la toute première assemblée citoyenne. Exprimez votre priorité dès maintenant sur www.congrès.nc. Toute l'information est disponible sur le site et la page Facebook du Congrès.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand.
Et direction l'Italie, avec deux nouvelles médailles pour la France aux Jeux Olympiques de Milan Cortina. Des médailles, Léo Fichu, décrochées dans une toute nouvelle discipline.
Et oui, c'est la première fois de l'histoire que le ski alpinisme est au JO. Pour faire simple, c'est une version compétitive du ski de randonnée. Une course où les athlètes enchaînent des montées sur les skis et à pied avant de redescendre en ski le plus vite possible. Cette nuit, Émilie Arope a été la première médaillée française dans cette discipline. Favorite pour l'or, elle a décroché l'argent. Dans la foulée, un autre français monté sur le podium, Thibaut Anselmette, qui a remporté la médaille de bronze. La délégation tricolore conserve sa quatrième place au classement avec 19 médailles. La Norvège garde la tête devant l'Italie et les États-Unis.
Du football ce matin avec les phases finales de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence. Un seul club français engagé. Il s'agit de Lille qui affronte l'Étoile Rouge de Belgrade à 7h. Il s'agit du barrage aller de cette Ligue Europa. Un mot de cyclisme pour signaler la première victoire de Paul Sexas en professionnel. Le jeune français de 19 ans a remporté la deuxième étape du Tour d'Algarve. C'était cette nuit au Portugal. Et puis le sport côté calédonien, Léo Fichu avec du rugby. Le 15 du Pacifique est en tournée sur le territoire pendant près de 3 semaines avec un programme chargé.
Oui, de nombreux rendez-vous pour ces militaires originaires pour la plupart de Calédonie, de Polynésie française ou encore de Wallis et Futuna. Une tournée organisée dans le cadre de la commémoration du 80e anniversaire du retour des volontaires du bataillon du Pacifique en Nouvelle-Calédonie. Vous le disiez, de nombreux rendez-vous pour transmettre les valeurs de ce 15 du Pacifique. L'adjudant-chef Elisio est le manager de l'équipe.
Dans les missions du 15 du Pacifique, on a le partage et la transmission culturelle, voilà. Le renforcement de la cohésion intergénérationnelle. On a également, et c'est pour ça qu'on est au rugby, la promotion du rugby et du sport militaire en général, et ce devoir de mémoire qui est hyper important pour cette équipe. Donc ouais. On va rencontrer pratiquement tous les institutionnels du territoire, du sud vers le nord, jusqu'aux îles. On va aller souligner un petit peu le lien qu'il y a entre la République et le peuple océanien. On a également aussi, dans notre devoir de transmission intergénérationnelle, on va faire ce qu'on n'avait jamais fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire visiter les hôpitaux. On va y aller, on va essayer de placer avec les guitares, les ukulélés, on va aller chanter, on va... Voilà.
C'est aussi ça, votre rôle, les joueurs du 15 du Pacifique, c'est apporter de la joie, de la bonne humeur.
Exactement. Voilà, c'est comme sur le terrain. C'est un peu notre combat aussi, c'est que c'est un sport collectif. Voilà, donc on vient aussi pour partager le collectif.
3 semaines de visite sur le territoire, c'est la tournée la plus importante depuis la création du 15 du Pacifique en 2007, avec un passage à Marais pour l'inauguration d'un monument aux morts, des rencontres dans les écoles de rugby et au RSMA, mais aussi et surtout des matchs amicaux contre le club du Mont d'Or. Ce sera samedi 28 février, avant de jouer contre la sélection calédonienne.
Merci Léo Fichu, on termine ce journal avec la météo.
Socaport Peinture vous présente la météo.
Socaport Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soiti, Lunicalo, pour professionnels et particuliers, et des milliers de teintes disponibles. Socaport Peinture, c'est à Ducos.
Et la météo, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, vigilance jaune donc pour ce matin, avec un vent violent sur la côte est de Canala à Yaté, sur la côte ouest de Dimbéa au Mont-d'Or et sur l'île des Pins pour un vent orienté à l'est qui soufflera en rafale jusqu'à 40 nœuds, c'est-à-dire aux environs de 75 km/h. Et une vigilance jaune pour de fortes pluies et des orages sur l'île des Pins, les Loyautés, la côte est de Tio à Yaté, sur le sud-ouest de Dimbéa au Mont-d'Or pour des averses localement fortes et orageuses aujourd'hui. Ce matin aux Loyautés, sur l'île des Pins et la pointe sud, pas de surprise, le temps est maussade avec des averses parfois fortes voire orageuses. temps sera gris sur les autres régions. Au Loyauté, le vent, lui, sera orienté nord-ouest autour des 10 nœuds. Sur le sud-ouest, la pointe sud et l'île des Pins, il sera orienté sud-est autour des 20 à 25 nœuds. Et des rafales, comme prévu, jusqu'à 40 nœuds. Ailleurs, il sera compris entre 15 et 20 nœuds en général. Cet après-midi, le mauvais temps persistera sur l'extrême sud, l'île des Pins et marées, avec des averses parfois fortes et orageuses. La chaîne se charge, les nuages et des averses se déclencheront également. Elles déborderont localement vers la côte est. Sur la côte ouest, le soleil sera bien présent. Bonne nouvelle, donc au Loyauté, le vent sera orienté nord-ouest autour des 10 nœuds. Ailleurs, il soufflera autour des 20 à 25 nœuds, donc des rafales prévues jusqu'à 35, voire 40 nœuds. Sur le nord-est, il sera un peu plus faible, 15 à 20 nœuds. Les températures, elles, en général, 29 à 32 degrés, Nicolas.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir écouté ce journal. Il sera évidemment disponible en réécoute sur notre site internet, le www.rrb.nc.